Étudions tout d'abord l'étymologie du mot histoire. Donc, le mot français vient du grec historia, qui signifie enquête. Et je pense que ce mot est intéressant parce que une enquête désigne une recherche qui est basée sur l'étude et l'observation des faits. Le mot historia fait d'ailleurs référence au livre fondateur intitulé Historia de l'historien grec Hérodote, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, en français moderne, le mot histoire est polysémique, il a donc plusieurs sens. Il peut désigner notamment, alors je distinguerai principalement trois sens. Premièrement, un récit fictif, mythique ou légendaire, comme une fable ou un conte, par exemple. Il s'agit du genre littéraire de la narration. Soit un récit véridique qui est conforme à la réalité des faits et des événements qui se sont déroulés dans le passé et qui résulte de la connaissance élaborée par les historiens. Soit enfin la réalité même des faits et des événements qui se sont déroulés dans le passé et qui ont marqué le devenir des sociétés humaines. C'est la réalité historique en elle-même, en train de se faire, ce qu'on appelle parfois l'histoire avec un grand H. Donc, en résumé, l'histoire peut être une fiction narrative, l'histoire peut être une connaissance des faits passés, ou bien elle peut être la réalité des faits et des événements passés. La différence et même l'opposition entre les deux premiers sens du mot histoire est intéressante car elle porte sur la question hautement philosophique de la vérité et de l'erreur, voire du mensonge. C'est là en effet l'un des problèmes fondamentaux qui peuvent se poser en philosophie, notamment à propos de l'histoire. Comment distinguer dans le récit des historiens ce qui relève d'une connaissance conforme à la réalité des faits et ce qui relève d'une construction narrative plus ou moins imaginaire et fictive? Comment distinguer, si c'est possible, la part d'objectivité, de scientificité de l'histoire, de sa part à la fois subjective et littéraire? À partir de cette interrogation fondamentale, plusieurs questions peuvent se poser. C'est ce que nous allons examiner à présent. Donc, je retiendrai à propos de l'histoire trois questions principalement. Premièrement, l'histoire peut-elle être objective? Deuxièmement, l'histoire a-t-elle un sens? Troisièmement, l'histoire est-elle ce qui arrive à l'homme ou ce qui arrive par l'homme? Première question, l'histoire peut-elle être objective? Partons d'une citation. Le même mot en français, en anglais ou en allemand s'applique à la réalité historique et à la connaissance que nous en prenons. L'homme est donc à la fois le sujet et l'objet de la connaissance historique. C'est là ce qu'écrivait le philosophe Raymond Aron dans un livre qui s'intitule Dimension de la conscience historique, paru en 1961. Par cette remarque, le philosophe met le doigt sur une particularité fondamentale de l'histoire qui fait de celle-ci un mode de connaissance problématique. L'histoire, en tant que science humaine, peut-elle être objective au même titre que les sciences de la nature, c'est-à-dire les sciences physiques ou la biologie? Cela paraît difficile, voire impossible, dans la mesure où l'être humain est impliqué dans cette connaissance, à la fois en tant qu'objet de la connaissance historique et en tant que sujet connaissant. Ainsi, la subjectivité humaine est doublement impliquée dans cette science, puisque celle-ci doit tenir compte de la personnalité de l'historien lui-même, qui juge le passé à partir de son propre point de vue, mais aussi de la personnalité des acteurs de l'histoire afin de tenter de comprendre ce qu'ils ont voulu dire ou faire au travers de leurs entreprises historiques. Toutefois, cela ne signifie pas que la connaissance historique n'ait pas ses propres exigences intellectuelles, de sorte que, si elle ne peut pas être parfaitement objective, elle ne se réduit cependant pas à l'expression d'opinions purement subjective, arbitraire et non rigoureuse. Comme l'affirmait le philosophe Paul Ricoeur, je le cite, nous attendons de l'historien une certaine qualité de subjectivité. Citation est tirée de Histoire et vérité, publiée en 1955. Autrement dit, l'historien doit élever sa subjectivité à un certain niveau d'analyse et de rigueur. L'histoire a-t-elle un sens? Les philosophes modernes ont cherché, notamment à partir du XVIIIe siècle, à déterminer si l'histoire pouvait avoir un sens, et ce, indépendamment de la doctrine chrétienne de la providence, selon laquelle, je cite, Dieu tient du plus haut des cieux les rênes de tous les royaumes, comme l'écrivait Bossuet dans son discours sur l'histoire universelle en 1681. On trouve ainsi chez le philosophe des Lumières Emmanuel Kant l'idée selon laquelle l'histoire aurait un sens global, connaissable par la raison humaine. Je cite, On peut envisager, écrit-il, l'histoire humaine en gros comme la réalisation d'un plan caché de la nature. Cette phrase est tirée du livre Idées d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, publié donc en 1784. Cette idée a été reprise et puissamment développée ensuite au XIXe siècle par des penseurs comme Hegel ou Marx notamment. Or, cette idée, selon laquelle l'histoire a un sens, peut être critiquée en raison du fait qu'elle envisage l'histoire de façon globale et du point de vue d'une fin ou d'un plan, comme disait Kant, dont le philosophe serait le dépositaire ou le garant, privant en quelque sorte les hommes de la spontanéité ou de la liberté de leurs actions individuelles. Bien plus, le XXe siècle a montré que des idéologies issues de certaines doctrines philosophiques, basées sur l'idée d'une fin de l'histoire, en particulier la doctrine marxiste par exemple, peuvent donner naissance à des régimes politiques destructeurs des libertés, comme ce fut le cas, par exemple, en URSS sous Staline. C'est ce que le philosophe Albert Camus a souligné en 1951 dans son livre « L'homme révolté », lorsqu'il écrit, je cite, « La fin de l'histoire n'est pas une valeur d'exemple et de perfectionnement, elle est un principe d'arbitraire et de terreur. » Troisième question, l'histoire est-elle ce qui arrive à l'homme ou ce qui arrive par l'homme ? Je commencerai par une citation. L'histoire, écrivait le philosophe Raymond Aron, est la tragédie d'une humanité qui fait son histoire, mais qui ne sait pas l'histoire qu'elle fait. C'est une citation tirée de son introduction au livre de Max Weber, Le savant et le politique, dans la traduction de 1959. S'il est vrai que les hommes sont acteurs de l'histoire, dans la mesure où ils sont capables de prendre des décisions et d'agir en se représentant consciemment les fins de leurs propres actions individuelles, ces actions elles-mêmes ont des conséquences à moyen ou à long terme qui échappent en grande partie à la prévisibilité, et elles produisent ainsi des effets sur lesquels les individus des générations suivantes n'ont que très peu de prise. C'est ce que soulignait d'ailleurs Max Weber, qui disait que le choix d'une génération devient, pour les générations suivantes, une sorte de destin. Ainsi, ce sujet est très proche de la question traitée dans le sujet précédent, à savoir dans quelle mesure est-ce que la compréhension du sens global de l'histoire est compatible avec l'affirmation d'une liberté individuelle d'agir. D'un côté, l'histoire risque de basculer du côté du fatalisme. De l'autre, elle risque de sombrer dans l'arbitraire des volontés individuelles, c'est-à-dire dans le non-sens. En conclusion, je dirais que la connaissance historique constitue une science au statut très ambigu, puisqu'elle doit tenir compte d'un côté du déterminisme des faits sociaux, ou même naturels, qui permet d'expliquer les transformations des sociétés humaines, et qu'elle doit tenir compte aussi, d'un autre côté, de la liberté individuelle de décision et d'action, en s'efforçant de comprendre leur signification, sans quoi l'histoire humaine n'aurait pas de sens. En qualifiant cette science de science humaine, au même titre par exemple que la sociologie ou l'économie, on entend ainsi souligner le fait que l'histoire a pour principal objet l'étude de l'être humain. C'est pourquoi la réflexion sur ces sciences intéresse au plus haut point la philosophie.